Alors on va continuer donc cette émission, on va enchaîner directement avec Loïc et avec Emmanuel qui sont en charge tous les deux de la d'ici passerelle, le centre d'art contemporain. Emmanuel est juste là, elle va pas tarder à arriver, on la reçoit. Loïc est parti un petit peu plus loin. On est en direct hein, jusqu'à 20h ce soir pour vous partager au plus proche, au plus près cette 27e édition, même s'il ne faut pas le dire, la 27e édition du Festival Astropolis. On ne parle plus de numéros, hein, on a compris. Nous, le programme, il est assez simple, hein, c'est vraiment focus sur la scène émergente. Et je suis bien content que vous soyez là, Campus Angers, Campus Rennes. Parler un petit peu de... Tu peux t'asseoir, Manu, hein. Je te tutoie direct, je t'appelle par ton petit prénom, tranquille.
On se connaît.
Bonjour et bienvenue sur Plateau Campus.
Merci de nous accueillir avec Loïc.
Bah Loïc, il prend son temps, il va arriver aussi.
Voilà. Mais merci à vous de nous accueillir dans votre centre, surtout.
Ben, on est ravis comme chaque année, comme chaque fois. C'est un grand plaisir.
Alors, Astropolis et le Centre d'art contemporain Passerelle travaillent presque main dans la main depuis pas mal d'années. Je crois qu'on est sur plus de 15 ans, même peut-être 20 ans de travail.
On n'est pas loin des 20 ans.
Vous n'êtes pas loin des 20 ans. Ouais. Et vous vous retrouvez, que ce soit sur les versions hivernales ou estivales, pour cette édition. Il y a deux rendez-vous. Le premier, c'est ce soir, c'est l'Astro Cocktail. Et il y a une deuxième édition demain aussi, un deuxième rendez-vous avec une sieste électronique.
C'est ça.
Il y avait eu cette proposition là aussi l'année dernière.
Il y avait déjà eu cette proposition dans En attendant la rêve l'année dernière. Ça avait très bien fonctionné. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des moments un peu plus shy pendant le festival. Et c'est vrai que le patio qui se prête bien s'y prête bien aussi. Enfin, ça se prête à effectivement, que ce soit les vinyl market pour danser, tout ça, ça marche bien. Mais pouvoir aussi s'arrêter et être un peu plus en mode contemplatif, c'est cool aussi.
Ben, c'est bien de changer de format un petit peu parce que voilà, la musique électronique, comme tu dis, c'est un spectre très très large. Et quand on peut proposer des siestes électroniques avec des musiques non dansantes, mais vraiment là pour se poser, comme tu dis, chiller, voilà, ça a du sens aussi de faire ça ici.
Exactement.
Centre d'art contemporain.
Oui, puis de la musique contemplative dans un centre où on est là a priori pour observer des œuvres, c'est d'autant plus cohérent.
C'est d'autant plus cohérent. Il y a quelques années, on avait fait des apéros en fait au casque, et une silencio, et où les gens pouvaient déambuler comme ça, avec justement un rythme assez lent. Et je pense qu'effectivement, ça avait été déjà une très belle expérience. Donc là aussi. Puis avec cette verrière en fait au-dessus de la tête, je pense que les gens aiment beaucoup se poser et observer.
Loïc, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur notre plateau Radio Campus.
Merci.
Trois expos actuellement ici qu'on peut se balader. Hein. C'est libre d'accès du 17 juin au 17 septembre.
Exact, ouais.
Avec un thème en particulier qui est tourné vers l'ouverture sur les plusieurs médiums. J'ai vu, il y a plusieurs styles.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment trois expositions très différentes. Une exposition collective qui rassemble quand même une douzaine d'artistes, mélangeant autant de la photo, vidéo, peinture ou autre. Une exposition dans un second temps qui dans le cadre de la saison France-Portugal, qui rassemble une artiste française qui allait travailler aux Açores, au Portugal, et une artiste portugaise qui est venue à Ouessant faire une résidence sur l'île. Et une troisième exposition dans le cadre d'une résidence d'une jeune artiste issue du terreau breton. Après, je peux vous en dire plus si vous intéresse. Hein, mais...
Évidemment, ça nous intéresse. Hein.
Alors, concrètement, on a une exposition principale qui est une exposition collective qui rassemble donc 12 artistes vraiment issus de mondes très différents. Parce qu'on a des artistes de Beijing, on a des artistes de Téhéran, mais aussi de Paris. Donc, c'est vrai que c'est très divers. Autour d'une thématique en fait qui a émergé maintenant il y a deux ans lorsque Brest candidatait pour être capitale française de la culture en 2022. Et à l'époque, les élus avaient demandé à tous les partenaires culturels de la ville de plancher sur un thème qui était la question de la métamorphose et des métamorphoses. Et donc c'est vrai que c'était pas mal, c'était très fédérateur en fait de se retrouver tous ensemble depuis justement Astro. J'en sais rien, à Plage Magnétique, au Macorlan, au Quartz, nous et bien d'autres, au Cinéopolis, etc. Et c'est vrai que pour moi, la métamorphose, j'avais d'abord pensé aux métamorphoses des corps, en fait, mais aussi de la ville. Et j'avais envie d'articuler ces deux potentielles métamorphoses. Et l'idée est venue autour de finalement cette phrase assez simple, cette question assez simple, c'est comment est-ce que l'architecture et l'urbanisme de la ville peut influencer, modifier ou altérer le corps de ses habitantes et de ses habitants, mais aussi leur psyché, voire leur comportement. Et donc du coup dans l'exposition, en fait, il y a plusieurs axes qui évoquent en fait ces métamorphoses. Il y a d'un côté la ville en guerre. Donc on a pris l'exemple notamment de Beyrouth, avec un rapport très particulier aussi à la guerre civile, puisque les Libanais ne parlent jamais de la guerre civile, mais des événements. C'est un petit peu comme aujourd'hui la Russie qui parle de l'opération spéciale en Ukraine. Il y a une espèce de mémoire collective qui veut s'effacer. Et à travers un artiste qui s'appelle Ali Chéri, qui vient justement de recevoir d'ailleurs le Lion d'argent, les Biennales de Venise, qui est un des grands prix d'art contemporain dans le monde, parmi le plus grand événement d'art contemporain du monde. Il prend du coup une vidéo où en fait il met en parallèle son corps et son corps à l'époque d'adolescent et la ville en ruine de Beyrouth. Et il explique en fait que lorsqu'il est jeune, il n'a pas le droit d'aller jouer dans la rue. Il est coincé chez lui, il est enfermé littéralement. Il explique également qu'au détour d'un quartier, il n'a pas le droit de franchir certaines zones de la ville qui sont des no-go zones, des endroits où on ne peut pas aller à cause vraiment littéralement aussi de la guerre, encore une fois. Ça, c'est le premier axe, c'est vraiment la ville en guerre et la ville détruite. La seconde partie, c'est vraiment la ville, littéralement, comment elle va rendre malade ses habitants. Et là, on a le travail d'une artiste américaine qui s'appelle Latoya Ruby Frazier, qui est une des très très grandes photographes afro-américaines de sa génération. Elle est née en 82. Elle a eu des grandes expositions, que ce soit au Jeu de Paume par exemple à Paris, mais aussi au MoMA à New York. Enfin, c'est quelqu'un vraiment de très identifié sur la scène de l'art contemporain. Et donc pendant de nombreuses années, je pense pendant une dizaine d'années, elle a suivi en fait sa famille, sa grand-mère notamment et sa mère qui ont été atteintes de cancer. Et ce cancer vient de l'environnement dans lequel elle a grandi, parce qu'elle a grandi dans une ville qui s'appelle Braddock, qui est dans l'Amérique des Grands Lacs, vers Chicago, etc. Dans une ville assyrie, donc une ville usine. Et évidemment, les ouvriers étaient que des Afro-Américains, des Latinos. Et évidemment, il y a un taux de cancer énorme qui crève le plafond, parce que la course au profit a bien sûr effacé toute notion d'attention des ouvriers et de la ville elle-même. Donc les problèmes écologiques, on va dire. La troisième grosse partie, ou en tout cas sujet qui est abordé, c'est la question de la gentrification, qui est maintenant un sujet qu'on connaît bien. Pour caricaturer, en fait, c'est le fait que des populations plus riches viennent remplacer des populations plus pauvres dans des quartiers, c'est-à-dire par une inflation des prix dans un quartier, notamment de l'immobilier, mais aussi en apportant des modes de vie différents. On peut penser, par exemple, rien qu'on a en banlieue parisienne maintenant, à un café hipster qui fait des cafés avec du lait de soja, des trucs comme ça, enfin, vraiment des trucs qui importent un mode de vie différent. Et donc la gentrification, on va la voir à travers plusieurs œuvres d'artistes dans l'exposition, parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi qui touche Brest aussi, de plus en plus, avec par exemple la partie portuaire de Brest, où on a pu avoir même la base, toute la partie réhabilitée des anciens terrains de la marine, mais aussi des quartiers aussi qui commencent à être un petit peu gentrifiés au fur et à mesure du temps. On peut penser au Jaurès, etc., où on commence à avoir des remplacements de population, en fait, finalement. Et l'idée, c'est toujours aussi que les populations les plus pauvres sont les plus exclues. Et bien sûr, c'est les populations également qui vont du coup avoir une plus mauvaise éducation, parce qu'ils vont être encore plus exclus plus loin de leur carte scolaire, etc. Mais aussi, c'est des personnes qui vont faire plus de trajets pour aller au travail. Et l'exemple absolu, bien sûr, il y en a plusieurs, mais Paris, par exemple, est un exemple avec le Grand Paris. Et notamment, on a l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Ryan M. Sirdi, qui est un artiste qui évoque justement la disparition d'immeubles d'années 60-70 à Gennevilliers, et au profit de nouveaux immeubles éco-construits, etc., pour des populations très bobos. Et il n'y a pas de... Je ne vois pas ça d'un mauvais œil, hein. C'est très très bien aussi que ça existe. Mais en fait, l'idée, c'est quand même que les populations sont remplacées, littéralement. En fait. Je poursuis pendant longtemps, mais je ne sais pas si...
Moi, je voudrais revenir et intervenir un peu sur la notion d'urbanisme, d'architecture, en fait, par rapport à ce que tu disais, les Hauts-de-Brest, Jaurès, tout ce qu'on a qui est en train de se dynamiser. Cette sensibilité là, c'est quelque chose de... C'est toi qui as amené plus ça ici, sur cette vision là, à Passerelle, le thème de l'expo à fleur de peau notamment.
Disons que ouais, c'est mon sujet, c'est quelque chose que j'ai traité, et c'est on dirait une question qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, Moi, j'ai vécu en Seine-Saint-Denis pendant quelques années. Et en fait, j'ai pu voir en fait ce mécanisme vraiment en direct. Hein. C'est-à-dire que je vivais à Noisy-le-Sec, il y a le métro qui commençait à arriver, il y avait clairement des populations d'origine maghrébine qui étaient de plus en plus exclues en fait, parce que le prix des loyers augmentait énormément, le prix des acquisitions également. Et en fait, moi-même, en tant que finalement blanc, travaillant dans le centre de Paris, je faisais partie de cette gentrification. Et c'est une vraie question aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on peut préserver aussi des espaces pour que tout le monde puisse se croiser. Et pour l'instant, typiquement, des endroits comme la place Guérin à Brest sont des exemples où ça fonctionne, en fait, que tout le monde peut vivre ensemble et sans forcément arriver et construire des nouveaux immeubles neufs en important des modes de vie différents. Quoi.
Justement, cet aspect de gentrification dont tu parles, on l'observe à peu près dans toutes les grandes villes de France. Moi, je pense à la situation du FRAC à Rennes, le FRAC Bretagne à Rennes, qui donc a été construit dans un quartier un peu excentré dans l'idée de dynamiser ce quartier, qui arrive plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un peu de mal à faire venir des gens du centre-ville jusqu'au FRAC, même s'ils essayent avec ton prédécesseur Étienne, j'ai oublié son nom de famille, Renan ?
Bernard.
Étienne Bernard, qui s'est rapproché du festival Big Love cette année, donc il y avait des événements de ce festival de musique électronique dans le FRAC. La question c'est, est-ce que vous, à Passerelle, quelles vont être vos actions pour faire en sorte de faire venir les gens pour que ce soit justement ce lieu d'échange multisocial, multigénérationnel
Bah disons que c'est vraiment tout l'objectif de notre action ici, de mon action d'arriver en tant que directeur, c'est vraiment d'ouvrir ce bâtiment qui, de l'extérieur, est finalement une toute petite façade qui pourrait ressembler à une espèce d'endroit un peu sacré comme une cathédrale, avec ce grand plafond, cette espèce de, on va dire, de blancheur immaculée. L'idée, vraiment, on a plusieurs pistes. Donc déjà, il y a d'avoir des expositions vraiment aussi qui croisent les publics un maximum, avec des thèmes aussi plus fédérateurs et plus ouverts, on va dire, entre guillemets. On a fait des expositions l'année dernière sur la question de la mer et de l'écologie. Là, on a cette question, finalement, de la ville comme reflet de nos corps. Donc c'est aussi par des actions d'exposition, mais c'est aussi énormément d'actions de pédagogie sur le terrain, travailler un maximum avec des écoles, mais pas que. Par exemple, on intervient, je sais pas, en prison, enfin on intervient dans plein d'endroits où on ne nous attend pas du tout. Et l'idée, c'est d'être vraiment moteur pour pouvoir proposer des possibilités de découverte de l'art contemporain. Après, très clairement, il y a d'autres idées beaucoup plus larges, en fait. Là, actuellement, on pense à refaire notre patio, en fait, le patio du Centre d'Art, qui est un lieu assez vide le reste du temps. Là, aujourd'hui, il est rempli parce qu'il y a Astropolis. D'autres fois, il est rempli parce qu'on a des vernissages, des événements. Et c'est vrai que c'est un lieu un peu d'attente, un peu vide. Donc il y a plusieurs idées à l'étude, notamment le fait d'ouvrir peut-être un point de restauration, pour vraiment créer un lieu où on vient de se poser, en fait. Moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui que...
Quelque chose de plus dynamique, tu veux dire ?
Exactement. Un endroit où on vient juste, on se pose. On va pas forcément voir une expo, mais en tout cas, on vient et on a la première étape de rentrer dans le bâtiment. Okay. Ne serait-ce que ça, c'est hyper important, moi, je trouve, aujourd'hui. Mm. Et donc, ça, c'est une des idées. L'autre idée, c'est aussi de remanier aussi même l'accueil du centre d'art pour qu'il soit beaucoup plus visible et beaucoup plus accueillant. L'idée, c'est de mettre aussi des canapés, de mettre des endroits où on peut se poser, en fait. Donc ça, c'est vraiment aussi repenser la signalétique. Donc il y a tout ça, en fait, et c'est vraiment aussi... peut-être s'intégrer encore plus avec le quartier, même si je pense qu'on le fait déjà pas mal, mine de rien, parce que Astro, par exemple, c'est un exemple, mais on a plein d'événements en commun. Là, par exemple, qu'il y a la foire aux croûtes qui a envie de faire un événement d'hiver, en fait, à Passerelle. Et c'est des choses que, moi, voilà, que j'ai vraiment envie qu'on s'engage dans ce genre de projet, en fait. Après, on a d'autres choses. Il y a le point de restauration aussi. Et après, d'une autre manière aussi, ça fait quelques temps, je travaille aussi sur l'idée peut-être d'ouvrir un autre lieu à Brest, en fait, de Passerelle, dans un autre quartier, pour essayer de faire une vaste communicante entre les différents publics des différents quartiers. Donc il y a pas mal de choses à l'étude, et c'est un travail vraiment de tous les jours, et ouais. C'est assez dur, en fait, finalement. Quoi. On essaie de faire le maximum, mais c'est du boulot.
Eh ben, on en reparlera à l'édition d'hiver pour
exactement.
Voir comment ça avance.
Ce sera le rendez-vous, justement, on pourra faire un point sur ce projet qui te tient à cœur. On va clôturer cette interview juste en rappelant voilà, qu'il y a trois expos actuellement ici à Passerelle, à Fleur de Peau, Twin Iceland et Céline Le Guillou. C'est comme ça qu'on dit, Le
Guillou.
Le Guillou. Ah merde. Voilà, c'est du 17 juin au 17 septembre. Merci Loïc, merci Emmanuel.
Merci à vous.
Merci à vous
d'être venu.
Et bon festival et profitez bien de passerelle.
Ouais, on va profiter de passerelle, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème.
Merci
du festival aussi.
Avec très grand plaisir.
Merci. Je vous propose qu'on fasse un petit break. Allez, on va prendre 5 minutes et puis on va enchaîner direct après avec toi, Étienne, et ton invité SR qui est juste derrière toi justement. Qui est prêt à venir discuter avec nous aussi. Donc on prend 5 minutes et puis on revient. Voilà. Restez bien avec nous. Hein.